c'est le hasard qu'on a vu qu'on intervenait ici. On l'a appris un peu par surprise, comme ça. Hop, voilà, on intervient sur l'imaginaire. Donc, on se connaît depuis 5 facile.
Hein, oui, je crois. Hein, c'est vraiment ça.
Fait
des... ouais, ça fait des années. Enfin bon,
ça fait des
siècles, quelque part.
Voilà. Et c'est vrai que mon premier livre était sur l'imaginaire. Un peu dans ce que tu fais, mon premier livre, c'était Le mystère de la nuit des pierres, que j'ai écrit donc, il y a très très longtemps. Et puis, Pierre était déjà dans ce domaine des lutins, des fées. Alors, je ne sais pas ce que tu fais maintenant. Tu peux peut-être en parler.
Ben, c'est-à-dire que j'ai dans ma jeunesse, j'ai fait les lutins, parce que quand tu étais jeune, plus souvent, tu as l'esprit un peu lutin. Ensuite, j'ai fait les fées, dès que...
Dès que tu as grandi un petit peu.
Voilà, je me suis un petit peu intéressé aux fées, même complètement, un peu trop peut-être. Et bon, avec les elfes, vu la conjonction actuelle et nos crapules qui nous gouvernent, il y a une forme de retirement, comme ça on se dit, bon, ben, vaut mieux que se retrouver parmi les elfes. Et là, je venant, j'ai fait les fantômes pour trouver des copains déjà quand j'arriverai. Et donc, j'envisage les revenants. On ne sait jamais. Donc, je suis dans les revenants.
Oui, oui.
Il y a une évolution dans le départ. Mais dans le retour aussi, quand même. Toi, Et c'est vrai que Donc on se connaît, on se perd. C'est souvent ça avec les festivals, c'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est que on est chacun dans nos coins, dans nos cryptes, nos donjons, tout ce qu'on veut, ou dans nos appartements. Et puis on se perd, on se revoit, etc. Et je ne t'avais pas vu depuis un petit bout de temps. Oui, voilà. Et on voit ce qu'a fait l'autre. Oui. C'est bien. C'est le plaisir des salons. C'est que on a l'impression quelquefois d'être en train d'écrire tout seul dans son coin. Hein, 9h, midi, 2h, 5-6h, quand on est en force. Et un petit peu. Et par contre, quand on va en librairie aussi, on voit ce que. Tiens, je dis tiens, un nouveau bouquin. Et puis on a des enfants aussi qui lisent ce que tu fais. Moi, j'ai des. Mais bonjour, tu vas bien.
Bonjour, on est arrivé en seconde discrétion.
Et donc, ça fait plaisir après de se revoir en chair et en os, quoi. Ou en plus ou moins chair et un peu d'os.
Oui, oui. Et c'est vrai que les salons, c'est ça aussi. C'est pas seulement rencontrer le public, ça c'est très agréable, mais aussi nous revoir en groupe.
Ouais.
C'est important aussi dans un salon. Alors, c'est moi qui ai pris les choses en main.
Mais c'est parfait, c'est parfait.
J'ai rien senti.
Magnifique, magnifique. Non, mais je savais que de toute façon vous étiez entre de beaux draps l'un et l'autre.
Oui, mais du beau drap, c'est comme le dire, on était assez justement.
Voilà. D'abord, je vous prie de m'excuser d'être arrivée en retard, puisqu'il y avait une petite erreur de planning. Voilà. Non, certainement pas. Et j'ai donc dû quitter un débat assez rapidement. Mais voilà, donc je me trouve en compagnie d'Evelyne Brizou-Pellel et de Pierre Dubois. Bonjour à tous deux. Et donc, nous allons entrer dans le vif du sujet, puisque je vois que vous êtes présentés tout seuls comme des grands.
C'est parfait.
C'est très bien. C'est ce que l'on va poursuivre, d'ailleurs, entre nous. Donc, avec les ouvrages respectifs de chacun, Le Manoir, tome 1, Ligard et la carte d'éternité pour vous, Evelyne Brizou-Pellel, et L'Épouvantable, mais il faudra avoir le courage de l'ouvrir quand même, L'Épouvantable encyclopédie des fantômes, de Pierre Dubois et Yann Blackmore, et Karine M. parlera aussi des illustrations qui sont tout à fait superbes de ce livre. Alors, je vais commencer avec vous, Evelyne Brizou-Pellel, honneur aux dames, si vous voulez bien,
Pierre,
avec Le Manoir. Alors, Evelyne, vous nous avez habitués à des ouvrages très, très imprégnés de l'histoire, enfin, l'histoire est votre terrain de jeu favori, mais déjà dans une dernière série qui s'appelle Les Messagers du Temps, le fantastique n'était pas tout à fait.
Il y avait un petit peu de fantastique. Et puis j'ai déjà travaillé sur les fantômes quand même, parce que j'avais déjà écrit. Bon, déjà, j'ai écrit dans Merveilleux, Le mystère de la nuit des pierres, dont je parlais tout à l'heure. J'ai écrit des histoires de fantômes qui s'appellent La nuit du deuxième fantôme, chez Hachette, La maison aux 52 portes, chez Boquette, La griffe des sorciers, où on a aussi des gens qui survivent depuis. Donc finalement, c'est pas un monde totalement étranger pour moi. Hein. Mais malgré tout, il y a d'histoire quand même dedans, parce que je peux pas m'en
toucher. Oui, vraiment. Et on le sent, effectivement. Avec des personnages qui, on le devine, vous tiennent à cœur. Alors, je vais juste situer l'action de ce premier volume. Je ne sais pas combien en sont prévus.
Pour l'instant, on s'est dit avec l'éditeur 5, mais j'ai des tonnes d'idées, donc j'ai peur qu'il y en ait plus. Enfin, ça va dépendre de l'accueil du public.
On pourrait avoir beaucoup plus de plaisir encore. Alors, on suit Liam, un jeune garçon qui vient tout juste de se remettre d'une longue maladie. Et ses parents l'envoient dans un lieu très étrange quand on le rencontre. Il est dans une voiture conduite par un chauffeur de taxi assez stylé. Et puis, il arrive dans un manoir assez étrange. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce manoir qui semble un petit peu hors du temps?
Alors, c'est un manoir, je dirais, traditionnel breton, 15e siècle, quoi, hein, dans ma tête, et voilà, avec ces deux tourelles, son toit un peu affaissé par l'âge. Sauf que ce manoir 15e, il a quelque chose de bizarre, c'est qu'il a un grand escalier qui monte, comme on l'a fait plus tard, et il semblerait que le bas soit condamné. Et Liam, le personnage, repère tout de suite ça, parce que sa mère est morte d'histoire, et que toute son enfance, il a visité des manoirs, etc. Donc il repère qu'il y a quelque chose d'étrange. Et petit à petit, il va se rendre compte en y rentrant, déjà, que. Alors, il se prend en maison de repos. Bon, c'est normalement une maison de repos. Donc, elle est très bizarre, parce qu'une maison de repos, c'est pas comme ça, quoi. Une maison de repos, c'est impeccable. Il y a des grandes fenêtres, des pelouses, des malades sur des bancs dehors. Et là, il n'y a rien de tout ça. Et il va s'apercevoir petit à petit qu'il n'y a même pas l'électricité. Il y a des torches qui éclairent. C'est très, très inquiétant. Et finalement, il est assez angoissé. Sauf qu'il apprend une bonne nouvelle tout de suite, c'est que. Il n'a plus besoin de médicaments. Et comme il sort d'un cancer, il a été vraiment assommé de traitements qui l'ont rendu très malade. C'est quand même la bonne nouvelle. Alors, son arrivée est un mélange de soulagement et d'angoisse.
On peut dire ça, effectivement, comme ça. Alors, à première vue, ce manoir est vide pour lui. Lorsqu'il arrive, il sent que. Alors, vide. Les couloirs sont effectivement vides. Il y a très peu de monde. Il y a un majordome. Lui aussi, très. Il y a un médecin. Un médecin un peu léger, on va dire. Enfin, pas très investi.
Non, pas très investi. Mais plus investi qu'on ne croit au départ. Mais voilà, il semble pas très investi.
Et puis, a priori, il n'y a pas trop d'autres personnes. Enfin, il va quand même les découvrir petit à petit. Il fait tout d'abord la connaissance d'un personnage assez étrange. Un homme en armure. Jupette et armure, armée, une sombre brute, visiblement. Qui est cet homme à qui vous semblez porter une certaine affection malgré tout?
Et voilà, alors cet homme s'appelle Léonidas, et en fait, il est très proche du vrai Léonidas, le guerrier spartiate, et roi de Sparte même. Et il a, donc ça c'est ses principes, et Liam pense que le génétisme est vraiment complet, il parle même le grec ancien, il fait très très peur à Liam, et en fait, visiblement, cet homme-là, est celui qui fait régner l'ordre dans le manoir. Et Liam va comprendre petit à petit qu'il y a vraiment besoin de quelqu'un qui est de la pointe, parce qu'il se passe des choses, il y a des personnages assez dangereux dans ce manoir.
Dangereux. Alors on peut le dire, parce qu'on y vient quand même assez vite, ce manoir est en fait peuplé de fantômes. Mais alors il y a deux catégories de fantômes. Il y a lui-même est investi, alors il va découvrir pourquoi il est là, parce que lui est différent.
Lui est différent.
Ce n'est pas un fantôme, il va découvrir petit à petit pourquoi il est là. Il a une mission, il est investi d'une mission. Mais il découvre surtout qu'il y a deux types de fantômes, ceux qu'il va pouvoir croiser. Il y a deux petits jumeaux, deux petits garçons, une jeune femme d'allure médiévale, une autre qui semble plutôt sortir du 19e siècle, un jeune homme plus proche de lui, une jeune fille même aussi, Cléa.
Cléa, oui.
Mais ce ne sont pas les seuls fantômes qui peuplent le manoir.
Absolument, il va le découvrir à ses dépens, en vraiment prenant un très très grand risque, que sous le manoir, c'est pour ça que tout est là-bas, sous le manoir, il y a des fantômes extrêmement dangereux. Des gens qui ont commis des faits extrêmement graves dans leur vie, et qui ne cherchent qu'une chose, c'est à reprendre une âme, pour pouvoir ressortir du manoir et aller hanter le vivant. Et pour reprendre cette âme, il faut qu'il apprenne à des gens qui en ont, c'est-à-dire ceux qui habitent à l'étage. Donc, il trouve un très, très grand danger. Et en cherchant à secourir Cléa, justement, Liam va tomber sur eux dans une scène un peu pénible pour lui.
Assez pénible, et puis même pour le livre, c'est assez impressionnant. Oui, oui, je confirme que... Alors, surtout que le livre, ce premier tome, se termine sans que l'on sache vraiment, sans qu'on ait vraiment affronté ces fantômes. Donc, on reste avec cette angoisse un peu en suspens. On découvre quand même quelle est la mission de Liam. Il a, on va dire, grosso modo, une mission de réparer quelque chose. Et alors, c'est l'occasion de certaines, de très belles pages, je trouve, sur le désir de vie, tout simplement. Aborder le thème de la mort, qui n'est pas un thème anodin, qui est toujours un thème un peu sur le fil, surtout lorsque là, et en l'occurrence, ben voilà, il y a cette jeune fille, Cléa, qui elle est morte, qui est réellement un fantôme. Il y a un autre jeune homme qui va arriver, qui est mort très, très bêtement, et auquel Liam va aussi essayer d'apporter son aide. En fait, parler de la mort, c'est aussi parler de la vie, c'est parler du désir de vivre.
Absolument, parce que le souci de la mort, c'est quand même un souci du vivant. Hein, ce qui cause du souci à tout le monde, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir après. Enfin, on est mort, on ne demande plus rien. Hein. Donc c'est vraiment un souci du vivant, puis je pense que c'est un souci de tous, de toutes les religions, parce que tout le monde imagine un après. Alors il y a soit une réincarnation, dans certaines religions, dans d'autres religions, il y a un paradis, avec dans ce paradis, bon, certaines choses, par exemple, sans les vierges, je ne sais pas si tout le monde s'en mêle de ça. Le paradis chrétien, c'est plutôt des petits anges avec de la musique et des prunes vertes, des pâquerettes, voilà. Donc, on a besoin d'une vision de l'au-delà, et finalement, j'en donne une autre. Alors, enfin, j'en donne une autre. On ne sait pas, ils ne sont pas tout à fait ni au paradis, ni à l'enfer, ils sont plutôt dans un au-delà. Ils sont là tous les gens qui ont refusé leur mort, qui trouvaient que ce n'était pas l'heure, que ce n'était pas le moment, qui veulent en fait à la vie de les avoir lâchés de cette façon-là. Et tant qu'ils n'ont pas résolu ce problème, alors c'est des problèmes très différents. Quelquefois c'est juste de ne pas avoir compris ce qui s'est passé. Quelquefois c'est juste qu'il y a quelqu'un, effectivement pour un des personnages, il y a quelqu'un qui a trahi, il ne sait pas qui, et il ne peut pas partir tant qu'il n'a pas su la clé de cette affaire, et c'est à cause de ça qu'il est mort. Bref, chacun a ses raisons d'être là, mais ce sont tous des gens qui ont refusé d'être morts qui sont. Alors Liam va mener l'enquête, quelquefois très loin dans le passé, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans leur vie. En fait, c'est un enquêteur, donc, et il va essayer de découvrir ce qui s'est passé dans la vie de ces gens, et il va les autoriser à partir pour l'au-delà s'ils le souhaitent. Il y en a qui ne le souhaitent pas, qui vont rester, mais il y en a qui s'en vont, une fois qu'ils ont réglé leur problème. Voilà, ça va être le travail de Liam. Et il a pour ça, justement, la carte d'éternité qui lui permet de partir dans le passé. Il règle cette carte qui est dans un bureau en bas, sur l'époque qu'il veut, et il va aller dans cette époque, éventuellement, essayer de résoudre le problème des gens, voire de ramener quelqu'un, enfin, il y a mille situations différentes.
Oui, oui, oui. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver au Thermopyle, absolument. Vis-à-vis. Là, on sent que vous avez pris un grand plaisir à faire revivre cette bataille. Vous avez vraiment beaucoup d'affection pour ce Léonidas, parce que vous avez réussi à le présenter comme une sombre brute au départ, et on finit par s'y attacher réellement.
Ben, je pense que c'est le problème des Spartiates qui avaient été élevés de manière extrêmement dure, donc eux-mêmes étaient durs d'un certain côté, mais c'était des humains aussi, et ils avaient aussi un côté humain. Ce qu'a Léonidas, il reste toujours assez penchant, hein. Il y a des choses, des problèmes psychologiques, lui c'est pas son truc, hein. Donc c'est toujours, mais il y a besoin de lui au manoir, parce qu'il y a quand même des, comme je disais,
il y a de réels dangers,
et lui il n'a pas d'état d'âme, c'est-à-dire qu'il va droit au but et il se pose pas de questions, et c'est pour ça qu'il est aussi précieux pour le manoir.
Alors Evelyne Brizoubelem, vous le disiez, ces fantômes, ce sont ceux qui refusent leur mort, qui ont estimé que leur heure n'était pas venue. On est bien là au cœur de la problématique, si je puis dire, du fantôme Pierre Dubois. Dans votre livre, donc, cette épouvantable encyclopédie des fantômes qui explore les différents types de fantômes, on va voir les lieux, les époques aussi. J'ai lu des choses assez surprenantes de ce côté-là. Cette encyclopédie, elle démarre de façon très touchante avec la naissance du premier fantôme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce petit fantôme préhistorique ?
Oui, le premier fantôme, à mon mon avis. Enfin, il fallait faire naître le fantôme. Je crois que le fantôme est né notre émotion. Contrairement, par exemple, au revenant. Le revenant revient, il a mal été enterré et il revient encore. Hein, il vient physiquement. C'est un mort qui ressort de la tombe et il vient réclamer quelque chose. Or, le fantôme, c'est autre chose. Bachelard dit quelque chose de très joli sur le fantôme. Il dit le fantôme, c'est une fée inachevée.
C'est
joli. Donc, c'est un émotionnel inachevé. C'est vrai que. Lorsqu'on voit la rivière, on pense automatiquement à Ophélie, on pense automatiquement à une fée aquatique, quelque chose comme ça. Et autant le revenant que j'écris en ce moment, justement, une encyclopédie des revenants aussi, c'est un personnage assez douloureux, assez pathétique, sombre. Le fantôme peut être une musique, peut être un souvenir, c'est un souvenir. Or, je pense que le premier fantôme, c'est certainement l'être cher qui a disparu, et je le voyais comme un enfant, c'est-à-dire que on n'avait pas conscience de la mort autrefois, au temps préhistorique, et c'était des cueilleurs, ils marchaient, l'un des leurs tombait, on le laissait tomber, et puis c'est tout, peut-être que la mère essayait de... J'ai vu un documentaire un jour terrible où on voit une guenon, quoi, le petit singe tombe mort, elle essaie de le réanimer, elle le prend, elle l'emmène avec lui, et bon, quand elle se rend compte qu'il est complètement inerte, elle s'en va, elle revient sur ses pas, et puis la tribu s'en va et donc l'emmène, et elle le laisse là. Je pense que chez nous ça a été un petit peu la même chose, c'est que lorsqu'on a eu conscience quelque part de la mort, cet enfant de la maman ne pouvait pas le laisser comme ça. Donc, et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a commencé à creuser un trou. Enfin, d'abord, on a mis des cailloux dessus et des branchages pour le préserver des bêtes. Il ne fallait pas qu'il ait froid, donc on lui a mis une fourrure. Et puis, quand même, on lui a mis son jouet, un petit jouet. Et puis, malgré aussi une arme, peut-être. Et la maman s'en va quelque temps après avec la tribu, avec son mâle. Elle entend dans le bruit du feuillage. Mais je crois que ça arrive à nous encore aujourd'hui, lorsqu'un être cher disparaît comme ça, lorsqu'on a un enfant qui disparaît comme ça, on ne le comprend pas et on cherche les signes. Je suis bien placé pour le savoir, et on cherche les signes, on attend qu'il y ait une manifestation, peut-être pas complètement matérielle, pas corporelle, mais qu'il y ait des synchronicités, comme disait Jung, hein, quand on commence à penser à quelque chose et que les coïncidences deviennent intelligentes. Hein, c'est, à partir de là, il y a une espèce de pensée magique. Et je pense que la maman, lorsqu'elle entendait un bruit de feuillage, pensait qu'elle le suivait. Il était là derrière elle. Elle se retournait, n'était pas là, mais il y avait un parfum, il y avait un petit rire au loin. Alors, est-ce que c'était le vent? Est-ce que c'était le bruissement? On ne sait pas. Néanmoins, cet amour qu'elle avait faisait que cette âme, cette espèce de dame perdue, vivait encore. Et là, une nuit, elle s'endort et elle entend même la petite flûte qu'elle lui avait offerte. Et quelque temps après, elle retrouve effectivement un jouet, enfin un petit os, etc. Et je pense, oui, un petit caillou au milieu du chemin. Et là, c'est le signe que nous donnent les âmes perdues. Là, les fantômes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des êtres qui sont mal morts quelque part. Tout le monde, on meurt toujours mal quelque part. Mais là, c'est encore pifauché dans son enfance, ou un suicide, ou un assassinat, ou quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, le mort a besoin de continuer quelque chose. Autrefois, dans les cimetières, par exemple, il y avait des tombes. Lorsqu'on se promène dans un cimetière, hélas, nos cimetières aujourd'hui, c'est des gravillons, on dirait un parking avec toutes les tombes comme des voitures. Le truc, c'est terrible. En Angleterre, ils ont compris, c'est de l'herbe et tout, c'est un jardin.
On s'assied. Vous expliquez qu'ils sont loin de nous maintenant. Voilà. Ils sont au cœur de la ville.
Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà, on les tient à distance. Autrefois, le cimetière était dans le village, était à côté de l'église. On se rend encore en Bretagne, m'est arrivé de voir de temps en temps en sortir de la messe les gens allant voir leurs morts. Et ils discutaient entre eux autour de la tombe, ils faisaient un signe de croix, il se passait quelque chose. Maintenant, le cimetière est rejeté. D'ailleurs, la mort ne fait plus partie de la vie. Alors que pour beaucoup, la mort, c'est une autre vie qui commence. Au Moyen-Âge, l'Église est venue mettre son nez là-dedans. Le purgatoire, vers le XIIIe siècle, le purgatoire, c'est ça. C'est que saint Augustin et tout, qui n'avait pas trop ces histoires-là, est intervenu aussi.
Il s'est dit quand même, choisir entre l'enfer et le paradis et rien au milieu. Quand
voilà, oui, c'est le voilà, c'est un petit peu.
Donc tout ça a été inventé.
Voilà, tout a été inventé. Voilà, c'est ça. Et la maman était là. Mais je pense que la maman, la femme, je pense que les plus belles histoires de fantômes ont été écrites par des femmes, par exemple. Marie Webb, déjà. Edith Wharton a écrit des choses fabuleuses. Les Brontë étaient très sensibles à tout ça. Sylvie, Towson Warner, je ne sais plus son prénom. Sylvia Towson-Warner a écrit là-dessus des choses très, très, très féminines, justement. Je crois que la femme sent très bien. D'ailleurs, il y a beaucoup même le tour d'écrou d'Henry James, ce sont les enfants qui sentent cette présence-là très, terriblement, et dont la petite fille, et c'est la gouvernante aussi. Qui va aussi
servir de médium,
tout à fait, à son corps défendant. Alors, est-ce qu'elle est folle ou pas, on ne sait pas, mais néanmoins, c'est elle qui réveille tout ça. Et je pense que c'est cette petite frange très, très sensible, très émotionnelle qui est là, c'est comme ça que le fantôme peut continuer à vivre. Alors, le fantôme, effectivement, contrairement au revenant, ça peut être une musique, ça peut être un parfum.
Oui, vous insistez beaucoup sur les bruits.
Voilà.
Vous dites que c'est vraiment leur manifestation privilégiée.
Voilà.
On sent aussi, on lit dans votre encyclopédie que la sensation aussi du froid, d'être agrippé, tout cela est très, très présent. Mais pour vous, c'est d'abord l'audition qui est touchée par le fantôme.
C'est d'abord le son. C'est vrai que le fantôme se manifeste déjà, même les spirites, s'il y a un fantôme frappe trois coups et le troisième ou le quatrième coup justement on ne sait pas d'où il vient, hein. Je parlais du bruissement du feuillage tout à l'heure, le bruit, la maison qui craque, la maison qui s'exprime, est-ce que c'est toutes ces âmes qui sont passées dans cette maison, qui sont mortes et qui se manifestent. Mais néanmoins, lorsqu'on s'endort, le bruit évoque toujours quelque chose. Hein, c'est le fantôme marche. Là, je vois par exemple, moi tu le connais, château de Châteaubriand. Ce qu'on entendait, c'était le pilon du fantôme qui marchait. Et j'ai connu le dernier Géraud. De la Tour du Pin, j'ai dormi dans le château de Châteaubriand et je lui demandais s'il était vraiment hanté. Il me dit, tu dors là une fois et tu verras s'il y a des fantômes. Et c'est vrai que ça craque de partout, ça bouge, ça respire, on entend des respirations. Après il y a notre imaginaire, mais néanmoins on entend tous ces bruits.
Il y a aussi le phénomène de froid.
De froid aussi, cette sensation de froid, il se passe quelque chose brusquement
sont les sens qui sont perturbés.
Voilà, les sens brusquement, c'est l'émotionnel. On a besoin d'un petit déclic venant d'ailleurs pour nous rappeler certaines choses. On est sûr de nous, de notre côté matérialiste et tout, et brusquement, mais on a notre sensation à nous, et il suffit brusquement d'un froid, d'un courant d'air, d'un bruit. Alors si tout se met en même temps, là on a l'impression que cette pensée magique se réveille. Et alors évidemment nous on a perdu tout ça, néanmoins dans d'autres civilisations c'est tout à fait normal, c'est tout à fait les morts sont là, on fait attention à la Toussaint. Autrefois, les anciens ne balayaient pas parce qu'on pouvait balayer les... Mais en Afrique, par exemple, un jour, c'était extraordinaire parce que j'allais raconter tout ça à France Culture ou je ne sais pas quoi. Et le gars qui me prend, le chauffeur de taxi, était africain, quoi, etc. Il me dit, qu'est-ce que vous allez à la radio, parce qu'ils m'emmenaient à la radio. Je dis, oui, c'est la Toussaint, je raconte. Il me dit, mais oui, mais mon père m'a toujours raconté ça, etc. Et lui, il le prenait. Et c'était formidable, parce qu'à travers c'est l'émotionnel, à travers cette voix, tout le monde se rassemble. Que ce soit toutes les races, toutes les on a les mêmes peurs. On a cette même peur aussi de mourir, et qu'est-ce qui se passera après.
Et la peur et l'envie aussi, la peur des fantômes, mais l'envie.
Et l'envie, de voir. Ça rassure, en même temps, le fantôme ne fait pas peur, vraiment. Le revenant peut-être, mais c'est... Non, mais c'est derrière.
Quand même, il y a quelques
fantômes qui font un peu peur. Alors, effectivement, un fantôme ne peut rien nous faire, puisqu'il n'y a pas de matérialité. Parce que l'homme a très peur du fantôme, c'est amusant.
Alors, ça, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même des fantômes qui reviennent, malgré tout, qui reviennent se venger. Dans votre encyclopédie,
Les poussées
à la folie, il y a des personnes qui disparaissent après avoir vu des fantômes. Il y a quand même
Le revenant peut tuer. Le fantôme peut pousser effectivement à la folie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est mal mort. Donc en général, il vient réclamer quelque chose. Ou alors, il vient retrouver ce qu'il aimait, les lieux qu'il aimait. On avait des fêtes, on avait là tout ça, mais la Noël a été pervertie par le christianisme, quelque part. Souvent, on me dit, ah ouais, là, tu parles du Père Noël, etc. C'est le petit Jésus d'abord. Ben non, le petit Jésus est venu après. Le vieux Père Noël, il n'avait pas ce nom-là. Il n'avait pas ce nom-là, mais disons que le vieux du solstice, et voilà, qui était là, était né bien avant. Et là, les anciens pensaient vraiment que les morts revenaient cette nuit-là. On allait chercher une bûche pour les réchauffer. Et d'ailleurs, ça se voit dans la bûche maintenant, elle est en moka, mais enfin, il venait là, et pendant on partait à la messe de minuit, on laissait la porte aux anciens. Donc,
c'est
les gentils.
C'est les gentils.
Oui, voilà. Méchants.
Mais justement, sur la table des fantômes, parce qu'il y a une saison des fantômes, ça vous l'explorez aussi dans votre épouvantable encyclopédie. Effectivement, on connaît la Toussaint, on connaît Halloween, on connaît Noël, on le soupçonne pour beaucoup. Le 1er mai, c'est très surprenant, puisque le monde des fantômes est plutôt associé à l'obscurité, au mois noir, comme on dirait en breton. Le 1er mai, ce mois de lumière, est aussi celui des morts, parce qu'il est précédé, dites-vous, du mois d'avril, qui est l'ouverture de la porte.
Voilà, c'est ça.
C'est quelque chose qu'on connaît moins.
Le mois d'avril, entre le dernier jour du mois d'avril et le 1er mai, bon, c'était les fêtes païennes. C'est le mois de Marie, après c'est le mois de la Vierge, etc. Néanmoins, autrefois, c'était plutôt les fêtes païennes. C'était et là, les morts participaient, les défunts sortaient de leur long hiver pour revenir voir le printemps, pour venir voir, ils venaient danser, parce que les fées et les fantômes sont extrêmement proches. Pourquoi aussi ? Parce que où on trouve ces fantômes, où on trouve ces fées, les fées étaient toujours, on les apparaissait surtout où il y avait eu des morts, des anciennes sépultures. Les chefs étaient enterrés sous des dolmens, les menhirs, etc. Et c'est là que les fantômes apparaissaient sous les formes de dames blanches. C'était des formes, par exemple, le révérend Kirk a décrit les Dawanshi, enfin les Sith, tous ces personnages de l'Irlande et de l'Écosse, qui étaient des fées. Mais c'était le peuple de l'au-delà. Ils font partie du peuple de l'au-delà, c'est-à-dire que quand on meurt, on est aussi, on passe du côté du royaume des fées. Les anciens pensaient que les morts et les fées vraiment avaient des alliances ensemble. ils apparaissaient, le fantôme est blanc. Le fantôme apparaît comme les faits sont blanches, comme ça, dans la nuit. Et il y a énormément d'histoires, par exemple, dans le folklore irlandais, où au mois de mai, c'est la date justement où les endroits, toutes ces collines creuses où il y a des dolmens, etc., s'entrouvent. Et là, on peut entrer dans le royaume de l'au-delà. Et on rencontre à la fois des fées, des elfes, mais aussi des morts. On dit que, par exemple, cette nuit-là, tout s'ouvre, un Irlandais se promène et il se dit, ma foi, je vais aller boire un coup chez les fées, parce que c'est le pays où le bonheur s'achète pour un sou. Et il descend, et là, il y a le roi. Alors, le roi... par exemple, au Pays de Galles aussi, le roi des fées, c'est aussi le roi des morts.
Il y a un mélange,
ils sont de l'autre côté. Une fois qu'on traverse de l'autre côté, on rencontre à la fois les fées et les morts. Mmh. Les morts qui sont là. Et justement, l'idée de Bachelard de dire que le fantôme est une fée inachevée. Il a mis le doigt dessus, comme souvent. On a l'impression qu'il a, bon, il a philosophé sur les esprits élémentaires, enfin sur les éléments, mais justement, il a dû être un premier édificologue sans le savoir. C'est mon papa que j'aime beaucoup.
Chez vous, Evelyne Rizoubelen, au manoir, il ne fait ni froid ni chaud. On a une saison comme ça.
Oui, c'est vrai, il n'est pas du tout question de température, c'est quelque chose qui est hors du temps et hors du climat finalement. C'est pour ça que tout le monde s'y sent bien, parce qu'ils n'ont pas de sensation dérangeante de toute façon. Mais d'un autre côté, on ne s'y sent pas très bien non plus parce qu'on n'y est pas encore à l'aise, puisqu'on est là à cause d'un problème.
Voilà, parce qu'on n'a pas. Là aussi, on reconnaît ce côté. Insatisfait et qui est vraiment commun à vos deux ouvrages. Alors effectivement, on me fait signe qu'il va falloir bientôt mettre fin malheureusement à ce bel entretien. Un mot quand même sur les illustrations de votre encyclopédie qui sont, je le disais, qui sont vraiment très très belles. C'est un couple, Eyan Blackmore et Karine M, nom très mystérieux ma foi. Je ne sais pas si tout le monde peut les voir. Donc il y a des illustrations au trait, à l'encre, et puis il y a des choses tout à fait spectrales comme ça. J'imagine que vous avez dû apprécier beaucoup ce travail très diversifié, qui répond d'ailleurs à la diversité, parce qu'il y a toute une typologie des différents fantômes, des différents contes de fantômes, la géographie des fantômes. Enfin, c'est un ouvrage extrêmement riche, et l'illustration souligne bien cet aspect.
Voilà, c'est un couple, c'est tous les deux, c'est Tic et Tac, ils se séparent jamais, ils ressemblent d'ailleurs à Tic et Tac, c'est deux petits, un
de
petit couple comme ça. Et c'est assez étonnant parce que lui voit les fantômes de façon beaucoup plus sombre, et elle, il puise complètement une espèce de romantisme un peu triste, un peu. Et ils sont très influencés tous les deux par, j'ai oublié le nom, effectivement, Tim Burton, les symptômes de Tim Burton. Et j'ai beaucoup aimé leur manière, parce qu'il y a toujours un petit peu des problèmes entre ce qu'on écrit et l'illustrateur. C'est que l'illustrateur, quelquefois, reste en deçà. Et puis, par exemple, quand j'écris, va tout de suite trouver la phrase que j'ai écrite et j'ai presque écrite pour elle sans m'en rendre compte, et c'est justement là-dessus, elle va brusquement aller chercher, puiser cette phrase, la mettre en exergue et illustrer et j'ai beaucoup aimé parce que tous les deux ont fait un bouquin à partir des textes où ils ont réinventé, par exemple, ce fantôme-là qu'on voit là-dessus. Ils l'ont fait mince. Moi, je l'avais dessiné dodu. Enfin, dans ma tête, elle était dodue, reploploteuse et tout. Et ils en ont fait. Et en fait, ils l'ont réinventé, mais ils ont trouvé ce que je pensais. Voilà, ils ont ramené quelque chose, et c'est rare, je trouve, de trouver cette espèce d'harmonie entre ce qu'on écrit et quelqu'un qui va... qui m'ont fait redécouvrir des choses. Et là, pareil pour les revenants, alors que le revenant est assez hideux et affreux, déjà, ils sont en train de réinventer tout cette... Voilà, ils ont leur propre univers, et ça, ce qui est formidable, c'est qu'ils ne vont pas illustrer complètement le texte mot à mot, ils vont prendre les mots. Pour moi, les mots, c'est très important, c'est un petit peu comme des lampes d'Aladin, tu sais, des objets inusités, tu les frottes, et l'âme en sort, hein, le génie en sort, et voilà, et ils en sortent. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé avec mes textes. J'ai écrit ça, voilà.
T'es bien accompagné.
Oui, oui, je suis très content.
Par
ces
deux illustrateurs. Très bien, bah écoutez, deux raisons de plus pour découvrir cette très belle et très épouvantable encyclopédie des fantômes qui est parue aux éditions Glénat, et dont vous avez écrit le texte, Pierre Dubois, éminent herpicologue. Et donc je rappelle pour vous, Evelyne Brissot-Pélène, que l'on peut découvrir le premier tome, et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, parce que c'est vraiment passionnant.
Et là, il n'y a pas de dessin, il y en a déjà suffisamment. Tout est dans l'imaginaire du lecteur.
Merci à tous les deux d'être venus nous entrouvrir cette porte sur l'au-delà. Et donc, on peut retrouver dans les mots de la vie.